pour nous parler ce matin du paradoxe du Père Noël.
Voilà, parce qu'en fait, j'ai passé une partie de ma vacances à étudier cette chose, hein, sur une suggestion d'une gentille auditrice sur les réseaux sociaux, hein, que grâce lui soit rendue. Prenez un Père Noël officiel et imaginez qu'il dépose un cadeau chez chacun des 8 milliards d'humains. Pas de jaloux. Avec une moyenne d'un seul petit mètre entre chaque humain, quelle serait sa vitesse? N'oublions pas que le Père Noël n'a que 24 heures pour réaliser ses opérations. En gros, sans vous dérouler tout le calcul, il devrait se balader à une vitesse d'un tiers de la vitesse de la lumière, soit 100 millions de mètres par seconde.
100 millions de mètres par seconde. On imagine que c'est pas évident, Fabrizio.
Ah, ce n'est pas du tout évident, évidemment. Et notre Père Noël aurait quelques petits soucis, hein. Citons en vrac le frottement dans l'atmosphère qui dégagerait une telle chaleur qu'il serait carbonisé comme une brindille. En prime cadeau, le Père Noël serait soumis à des forces G énormissimes, surtout lors des changements de direction avec sa luge. Il perdrait conscience, ses viscères se retrouveraient sans le dessous. On aurait le froid à la place de la rate et l'estomac dans les talons. Alors par-dessus tout, les forces aérodynamiques massives mettraient sa structure en défaut. Son squelette s'effondrerait et ce serait quelque part l'implosion du Père Noël. Rennes comprises, on aurait voilà. De la bouillie de Père Noël.
Désintégration immédiate des rennes et du Père Noël. Bon, imagine que le Père Noël réussisse à résoudre tous ses problèmes, Fabrizio. Est-ce qu'il serait en mesure de livrer tous ses cadeaux?
Mais non, il serait pas tiré d'affaire pour autant. Hein. Pourquoi? Parce que, because, il faut encore qu'il trouve l'itinéraire optimal pour arriver, pour réaliser son chemin, si vous voulez, entre les différents humains à qui il doit donner le cadeau. Et ça, en science, on appelle ce problème le problème du voyageur de commerce. Et l'astuce, c'est que le nombre de chemins à explorer va augmenter de manière exponentielle quand le nombre d'étapes augmente. Et on peut faire le calcul assez précisément jusqu'à 100 000 étapes. C'est à peu près le nombre de bourgs et de hameaux en France.
100 000 étapes.
100 000 étapes. Au-delà, nos calculateurs sont complètement dans la panade. Hein. Alors on pourrait proposer au Père Noël une solution à 2 ou 3% près de justesse, si vous voulez. Donc on aurait une solution sous-optimale à 2 ou 3% près de la solution optimale. Cela signifie que l'itinéraire du Père Noël ne serait pas le tour donc optimal, et oui. Ce n'est bien sûr pas tout à fait exceptionnel pour un monsieur de cette importance.
Bah, comment est-ce qu'on peut trouver alors des solutions qui seraient optimales pour le Père Noël?
Mais, écoutez, vous mettez une question, le doigt sur la question de manière assez astucieuse, parce que c'est un problème subtil, ce problème du voyageur de commerce. Eh bien, cette affaire, elle est résolue par des méthodes algorithmiques. Et quand le nombre d'étapes devient trop grand, eh bien, on n'arrive plus à calculer la solution idéale. Et les méthodes algorithmiques ne peuvent plus nous donner qu'une solution approximative. Ce qui est impressionnant, c'est que d'un point de vue scientifique, on réussit quand même à calculer l'écart entre la solution approximative et la vraie solution. C'est bien sûr pas un écart à 100% précis, c'est une sorte de marge d'erreur, d'estimation d'erreur sur la mesure.
Bon, vous aviez une solution logique à ce problème de l'existence du Père Noël, Fabrizio, que vous enseignez d'ailleurs à vos étudiants.
Oui, alors nous avons une solution logique, parce que quand on est tout à fait dans la panade scientifique, la logique nous tire toujours du mauvais pas. Hein. Alors, physiquement, on l'a vu, le Père Noël ne peut pas exister, mais logiquement, il peut exister. Voilà. Il faut d'abord rappeler un petit principe de logique formelle qui est important pour la compréhension de la suite des opérations. Ce principe de logique formelle dit que si une prémisse est fausse, la démonstration est vraie. C'est le fameux, en latin, ex falso quod libet. Hein. Donc, le latinisme vous pose toujours un homme et une femme en discussion le soir. Donc, ex falso du faux, quod libet, ce que l'on veut. Alors, on comprend mieux pourquoi un raisonnement, n'importe lequel, doit être construit sur des bases solides, vu que du faux, on peut démontrer n'importe quoi. Prenez maintenant la phrase, attention, tenez-vous bien, c'est ici que ça se corse, hein, comme disaient ceux d'Ajaccio, pardon. Si ce que je dis est vrai, le Père Noël existe. Mais si la phrase est vraie, le Père Noël existe, et basta, et quelque part, on est sauvé. Mais est-ce que cette phrase peut-elle être fausse? que nenni, que nenni, car si la phrase est fausse, elle est vraie. Démonstration sous vos yeux ébahis, les amis. Imaginons que la phrase « si ce que je dis est vrai, le Père Noël existe » est fausse. Dans ce cas, la première partie de la phrase « si ce que je dis est vrai » est fausse. Or, si la prémisse est fausse, la phrase devient vraie, en vertu de notre principe logique. Donc la phrase est vraie alors qu'on l'avait supposée fausse. C'est un paradoxe. La seule option est de considérer que la phrase est vraie et le Père Noël existe. Salut, Gus.
Voilà, donc conclusion, le Père Noël existe, mais on ne sait toujours pas comment il réalise sa tournée sans se faire désintégrer par la vitesse du déplacement.
Voilà.
Merci beaucoup, professeur Fabrizio.